choisi comme doctrine
la Bible. On a vu la doctrine de Dieu le mois dernier, la doctrine de la Bible. C'est une doctrine importante parce que notre foi se fonde sur la Bible. Et on va lire un premier texte, 2 Timothée 3,16 ce matin, sur le thème de l'inspiration de la Bible. 2 Timothée 3,16 qui nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Donc on va s'arrêter d'abord sur la première partie, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». D'ailleurs, le mot exact, ça serait « Toute l'écriture est expirée de Dieu ». Parce que le mot grec, c'est vraiment l'idée que c'est Dieu qui souffle l'écriture, c'est une parole qui est soufflée de Dieu, qui vient de Dieu. Hein. Donc c'est Dieu qui a inspiré les écrivains de la Bible. On le retrouve aussi dans un autre texte qu'on peut lire, c'est 2 Pierre, chapitre 1 et verset 20, sont des versets qui sont des versets clés sur l'inspiration. 2 Pierre 1:20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé ou porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Inspiré de Dieu, poussé par Dieu. Et parmi ces hommes, il y en a un qui est pleinement conscient de cette inspiration dans l'Ancien Testament, c'est David. David qui dira très clairement dans le livre de Samuel, je vais juste le citer, hein, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Hein. » C'est 2 Samuel 23:2. David peut dire, voilà, il est conscient d'être inspiré, il dit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi. » Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce qu'un chrétien peut dire « L'Esprit de l'Éternel parle par moi » ? Alors, vous êtes hésitant ? Est-ce qu'un chrétien peut dire « L'Esprit de Dieu parle par moi » ? Alors oui et non, c'est-à-dire non, nous ne sommes pas inspirés au même titre que ces auteurs pour écrire la Bible. Mais il y a des moments où, bien sûr, si, il y a beaucoup de textes qui nous disent que le Saint-Esprit, hein, nous dira ce qu'il faut dire, que si nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons être conduit, inspiré quelque part pour trouver les mots qu'il faut, hein, hein, pour répondre. En tout cas, là, c'est l'inspiration pour écrire la parole de Dieu. Hein. David est conscient, lui, d'être le porte-parole de Dieu, le prophète, hein, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dieu, c'est l'auteur de la Bible, mais les écrivains, ben, ce sont 40 écrivains différents qui sont les rédacteurs de la Bible. Alors, question qu'on peut se poser, comment Dieu a parlé à ces écrivains ? Comment il leur a parlé ? Mais regardez par exemple dans Nombre, chapitre 12, versets 6 à 8. Nombre 12, versets 6 à 8, il dit « Écoutez bien mes paroles. » Il s'adresse ici à Aaron et à Myriam, la sœur de Moïse. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Donc, par des visions. Et c'est dans un rêve que je lui parlerai. Par exemple, Daniel, le prophète Daniel, il avait des rêves, il avait des visions. Dieu lui montrait des choses à venir. Et David écrivait ce qu'il voyait. Mais au sujet de Moïse, il dit, ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse avait le privilège de parler face à face avec Dieu, il est dit. Il voyait une représentation de Dieu, c'était ce qu'on appelle une théophanie. Donc Dieu lui parlait directement et il lui révélait des vérités qui étaient jusque-là inconnues à l'homme. Par exemple, on pense que Dieu a révéler les détails de la création à Moïse. Il dit, Moïse, assieds-toi, je vais te raconter comment j'ai créé l'univers. Et Moïse, il a pris note, hein, il a écrit premier jour, deuxième jour, etc. Dieu lui a révélé la création. Comment ça s'est passé? Alors bien sûr, il y avait une transmission orale aussi, hein, de, dans l'Ancien Testament, les histoires de toute l'histoire avant Moïse. Mais beaucoup de choses étaient révélées directement. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Paul. Paul qui dira, c'est par révélation de Dieu que j'ai reçu tout ce qui concerne l'Église. Dans Éphésiens, il dira, c'est Dieu qui a révélé l'Église. En quoi ça consistait? Ou alors, Jean, dans l'Apocalypse, eh bien, Dieu lui révélera les choses à venir. Regardez Apocalypse 1, versets 10 et 11. Jean, il était prisonnier sur l'île de Patmos, et là, il avait tout son temps. Il était à la retraite, il était âgé. Il avait, on pense, plus de 90 ans. Et là, Dieu va lui donner cette révélation de l'Apocalypse, et lui dit, il dit, je suis saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc là, il entend une voix qui lui parle carrément, et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Voilà comment Dieu a transmis sa parole. Dans certains cas, il parlait directement, il y avait une voix qu'ils entendaient, et ils écrivaient dans un livre, et envoie-le à cette église. Alors, question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une dictée comme le Coran? Vous savez que le Coran, pour les musulmans, a été dicté à Mahomet. C'était une dictée, de temps en temps, voilà. Il y avait un ange qui lui disait, voilà, écrit. C'était une dictée, hein. Alors, dans certains cas, oui, hein, on voit bien qu'il écrit ce qu'il voit, il faut qu'il recopie les 10 commandements, il n'avait pas le choix, là. Hein. Mais la plupart du temps, Dieu utilise les capacités intellectuelles ou la personnalité des écrivains. On voit dans le cas de Salomon, hein, on a évoqué l'Ecclésiaste, et bien on va le relire, Ecclésiaste 12, verset 9 à 12, hein, c'est juste avant ce qu'on a lu tout à l'heure, on va voir que l'Ecclésiaste Salomon, il a travaillé, il a étudié pour écrire ces choses-là. Ça n'a pas été une révélation directe de Dieu. Nous lisons, hein, 12-9, il dit, l'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple, et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. Donc c'est du travail. Hein. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, donc il a cherché, hein, avec sa sagesse, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Voilà. Et après, verset 12, il dira aussi que beaucoup d'études à la fin, hein, la fin du verset 12, il dit beaucoup d'études et de fatigue le corps. Donc, c'était du travail. Il fallait qu'il travaille. Ça ne venait pas comme ça tout seul pour, dans ce cas-là. Il fallait aussi qu'il recherche, qu'il travaille sous l'inspiration, hein, sous la direction de Dieu. Tout en bénéficiant du don de sagesse accordé par Dieu, hein, il fallait aussi qu'il travaille. Regardez 1 Roi, chapitre 5, versets 9 à 13, voir que c'était un homme qui étudiait. Dans le cas de Salomon, c'est quelqu'un qui a dû faire des recherches. Hein. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Hélas, on ne les a pas conservés. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. On voit un petit peu, hein, dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste ou même le cantique. Donc voilà, donc c'était un scientifique presque. Hein. Mais voilà, il a écrit, conduit par Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a l'exemple de Luc, Évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, où on voit que Luc, il va faire un travail de quoi, lui? Un travail d'historien, de chercheur. Intéressant, hein. Luc était médecin, scientifique aussi. Il dit, plusieurs, on va le lire, hein, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui nous ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Donc on voit ici comment la Bible a été transmise aussi. C'est-à-dire, il y avait une transmission verbale, Certains racontaient, voilà ce que Jésus a dit, voilà ce qui s'est passé. Et donc lui, il dit, il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, donc un travail de recherche, journaliste, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent, Théophile, donc, personnage qu'on ne connaît pas, à qui il destine son livre, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On voit ici que c'est un peu différent, hein. C'est pas comme Moïse ou comme certains, ou même Jean dans l'Apocalypse, tu écris ce que tu vois. Là, il y avait un travail de recherche, il s'est documenté, il est allé parler avec Marie. Raconte-moi, Marie, comment ça s'est passé. Il est allé voir peut-être d'autres personnes. Hein. Mais tout cela, bien sûr, sous le contrôle du Seigneur. Parce que Jésus a promis une chose, hein, il a dit que le Saint-Esprit, quand il viendrait, eh bien, il leur rafraîchirait la mémoire, en quelque sorte. Il leur rappellerait tout ce qu'il leur a dit. Parce que c'est vrai qu'on oublie, nous. Donc, il y avait le besoin du Saint-Esprit pour qu'ils se rappellent, hein, pour qu'ils se souviennent. Et le Saint-Esprit pouvait rajouter certains détails qu'ils avaient oubliés. C'est Jean 14, 26. Donc, les quatre évangiles sont intéressants à cet égard, parce que les quatre évangiles, c'est un peu comme quatre reporters, quatre journalistes, qui vont raconter la vie de Jésus, mais vue sous des angles différents. On sait que Matthieu, il va présenter Jésus davantage pour les Juifs, Luc davantage pour les Grecs, par exemple. Quelqu'un a écrit que Dieu inspire les pensées de l'écrivain et les dirige d'une manière telle que celui-ci a une idée très claire de ce qu'il faut retransmettre en trouvant les mots appropriés sous la conduite donc du Saint-Esprit. Parce que les mots sont la formulation de nos pensées, ce que nous pensons, voilà, parfois on a du mal à l'exprimer. Hein. Ben là, ils avaient l'aide du Saint-Esprit pour trouver les bons mots à mettre sur le texte. Donc nous croyons à l'inspiration verbale de la Bible, c'est-à-dire du latin verbum, qui veut dire le verbe, hein, parfois c'est traduit comme ça, qui veut dire la parole. C'est-à-dire que Dieu, les mots qui sont dans la Bible, c'est les mots que Dieu a voulu. Hein. Parfois c'est les mots que Dieu a choisis directement. Il a dit, va, tu écris ça. Exactement. Notre moment, il a laissé plus de liberté. Hein. On voit avec Salomon qui a recherché, Luc aussi. Mais tout ça sous le contrôle du Seigneur. Hein. C'était le Seigneur supervisait tout ça. Alors, que veut-on dire maintenant quand on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu? Mais d'abord, ça veut dire qu'une bonne partie des Écritures est constituée des paroles mêmes de Dieu. C'est Dieu qui parle. D'ailleurs, il y a des Bibles qui existent, des Bibles où toutes les paroles de Dieu, enfin, en tout cas de Jésus dans les évangiles, sont en rouge. Vous connaissez ces Bibles-là, hein, hein? C'est intéressant, donc là, ça ressort. Et on pourrait le faire pour l'Ancien Testament, toutes les paroles de Dieu. Quand c'est Dieu qui parle lui-même, ça occupe une grande partie de la Bible déjà. Donc, c'est vraiment les paroles de Dieu. Regardez, par exemple, les 10 commandements. Exode 32, versets 15 et 16. Là, c'est clair, hein? Les premières tables, les premières parce que vous savez que Moïse va les casser, il va les briser. Moïse, hein, il est dit, repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main, les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté, regardez verset 16 maintenant, elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. C'est incroyable, Dieu il a pris la peine d'écrire, de graver les 10 commandements. Donc c'est vraiment la parole de Dieu. Ailleurs, vous avez par exemple le livre de Job aussi, où à la fin du livre de Job, 38 à 42, pratiquement, c'est Dieu qui parle. Jusque-là, c'était Job, ses amis. Là, c'est Dieu qui parle. Taisez-vous maintenant, écoutez. Et c'est Dieu qui parle, chapitre après chapitre. C'est la parole, les paroles de Dieu. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on trouve près de 4000 fois l'expression « l'Éternel dit ». Ainsi parle l'Éternel. Donc là, il n'y a pas à discuter, c'est vraiment les paroles de Dieu. De même dans les évangiles, hein, quand c'est Jésus qui parle. Donc, une grande partie de la Bible, ce sont les paroles de Dieu. Mais parfois, Dieu a mis dans la bouche des hommes ses propres paroles. À tel point d'ailleurs que certains parlent les paroles de Dieu, prononcent les paroles de Dieu malgré eux. On a l'exemple de Balaam dans l'Ancien Testament, ce prophète qui part, payé par les ennemis d'Israël pour maudire Israël, et Dieu l'arrête et lui dit « Accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. » Et donc, même juste après, Balaam dira « Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » C'est-à-dire que ce prophète, Balaam, quand il ouvrait la bouche, c'était plus lui qui parlait, c'était Dieu qui parlait. Et il aurait voulu faire plaisir à ceux qui le payaient pour ça, dire il disait que Dieu bénisse Israël, Dieu, Israël c'est le peuple de Dieu. Tout ce qu'il disait c'était que des bénédictions sur Israël, ça énervait ces peuples. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais, t'as payé pour maudire Israël et tu fais que le bénir. Il dit, je ne peux pas faire autrement, je peux dire que ce que Dieu a mis dans ma bouche. Donc là vraiment, il était un instrument de Dieu, hein. C'était pas même volontaire, hein. Regardez aussi un autre exemple dans le Nouveau Testament, Caïphe, qui était prêtre, dans Jean 11, 49 à 51. Lui aussi, c'est pareil, hein. Caïphe n'était pas spécialement un bon prophète, n'était pas forcément quelqu'un qui était un disciple du Seigneur. Et voilà ce qui se passe à un moment donné, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, il est parlé au Sanhédrin, là, hein, au conseil juif, « Vous ne comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Parce qu'ils avaient peur que les Romains risquaient de faire un massacre s'il y avait des troubles. Donc il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un qui meure, donc Jésus, pour tous. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Donc là encore, c'est pas, il ouvre la bouche, il dit quelque chose, c'est pas du tout quelque chose... qu'il a forcément prémédité ce qu'il dit là. Comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voilà, le Saint-Esprit le saisit là, c'est arrivé dans l'Ancien Testament, les hommes qui étaient saisis par l'Esprit et puis ils parlaient de la part de Dieu. Donc là, c'est encore des paroles de Dieu dans la bouche des hommes. Mais il y a aussi dans la Bible des paroles d'hommes et de femmes, hein. La Bible, c'est aussi un livre où il y a des récits, depuis Adam et Ève qui discutent avec Dieu, jusqu'à Jean dans l'Apocalypse, hein, qui parfois dialogue aussi avec Dieu. Et donc ces paroles d'hommes et de femmes, Dieu a voulu qu'elles soient rapportées, même s'il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Hein. Par exemple, Dieu ira jusqu'à dire, au sujet des amis de Job, à Job, tes amis, eh bien, ils ont mal parlé de moi. À la limite, tout ce qu'ils ont dit, on pourrait l'enlever de la Bible. C'est pas correct ce qu'ils ont dit. Mais voilà, Dieu a voulu que ça y reste, voilà, que ça soit rapporté, pour savoir ce qu'il faut pas dire, justement, à quelqu'un qui est dans l'épreuve. Et que dire des paroles de Satan? Il y a même les paroles de Satan dans la Bible. Il y a le diable qui parle dans la Bible, dans la Genèse, quand il met le doute dans l'esprit d'Adam et d'Ève, ou quand il tente Jésus, vous savez, dans la tentation dans le désert, il va dire des choses à Jésus qui sont tordues, hein, qui sont mauvaises, mais Dieu a dit non, il faut que ce soit rapporté. Donc là, ce ne sont pas les paroles de Dieu, hein, ce sont les paroles des hommes, même du diable d'ailleurs, mais c'est dans la Bible. Et la Bible contient aussi beaucoup de récits, hein, de récits qui ont été rapportés par les hommes, hein, qui décrivent parfois les péchés des hommes. On en parlait jeudi, il y a des choses pénibles dans la Bible, faut pas le cacher. Il y a des choses difficiles à lire. Quand il y a des récits de péchés, de massacres, c'est difficile. On pourrait dire que tout est simple, hein. C'est même Pierre qui le dit. Hein. Il y a dans les écrits de Paul, il dit, Paul, je suis copain avec Paul, mais il y a des choses difficiles dans ce qu'il écrit parfois, c'est compliqué, hein. C'est pas simple. Mais voilà, Dieu, il a voulu que ce soit dans la parole de Dieu, hein, dans les Écritures, hein. Même si parfois, voilà, il y a des récits qui peuvent nous choquer, qui peuvent être difficiles, c'est dans la Bible. Il a voulu qu'il figure pour montrer l'homme tel qu'il est, avec ses péchés, comme disent beaucoup de commentateurs. Si la Bible était un livre faux, fabriqué par les hommes, on n'aurait pas mis tous ses péchés. On aurait présenté des super-héros, comme dans la mythologie grecque, n'est-ce pas ? Des hommes sans défaut. Mais ce n'est pas le cas. Dieu, il présente l'homme tel qu'il est. Alors, une autre question maintenant. Est-ce que la Bible est fiable scientifiquement et historiquement? Alors, scientifiquement, il faut dire d'abord que la Bible n'est pas un livre de science, hein, ni un livre d'histoire non plus. Même s'il y a des faits qui ont une valeur scientifique et des faits historiques. Rappelons-nous ce qu'on a lu, il est dit « Toute l'Écriture est inspirée ». Donc toute la Bible est inspirée de Dieu, donc on peut avoir confiance dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais parfois, dans sa façon de s'adresser à l'homme, Dieu s'adapte. Et par exemple, on parle dans la Bible du soleil qui se lève ou qui se couche, de même pour la lune, même à un moment donné, il est dit que le soleil et la lune, au temps de Josué, vont s'arrêter, un jour pratiquement. Alors, évidemment, ce n'est pas le soleil et la lune qui sont arrêtés, hein. C'est probablement la terre qui s'est arrêtée. De même, le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas, hein. C'est la terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil, etc. Mais c'est une forme de langage, bien sûr. Dieu, il s'adapte, hein, quand il parle, et nous le faisons aussi. Sachant que Jésus, qui fait autorité, a confirmé, par exemple, dans Matthieu 19, verset 4, Jésus confirme la création. Donc, parfois, c'est là qu'il y a des doutes, des questions aujourd'hui. C'est pas ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est pas ce qu'on présente dans les médias. On présente plutôt l'évolution, mais Jésus, lui, il confirme la création. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, déjà le mot Créateur, hein, ça veut dire création, hein, au commencement a fait l'homme et la femme. C'est clair, Jésus, il ne dit pas, écoutez, bon, il faut que je corrige un peu ce qui a été écrit, parce que bon, à l'époque, c'était pas... Non, non, il confirme, il dit, le Créateur a fait l'homme et la femme. Jésus va confirmer la création, il va confirmer... Le déluge, ça aussi c'est un événement important, dans Luc 17, versets 26 à 29, c'est très important parce que le déluge, qui croit encore au déluge aujourd'hui dans notre monde? Les chrétiens, j'espère. C'est important le déluge, hein, vous savez, le déluge ça explique beaucoup de choses. Et Jésus dit, voilà, ce qui est arrivé à l'époque de Noé, pour Jésus, l'histoire de Noé c'est historique, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Si vous ne croyez pas à l'histoire de Noé, ben, accrochez-vous parce que ça va se reproduire, hein. Différemment, mais ça va arriver. Regardez, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, donc pensez à tout sauf à Dieu, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Un jour le Seigneur va revenir et là les événements vont s'accomplir et s'accélérer, mes amis. Mais le jour... Alors voilà, donc ça c'est le déluge, confirmation du déluge. Pour Jésus, c'est un événement historique. Il va confirmer aussi l'histoire de Jonas, alors c'est encore plus gros, hein, à avaler, c'est le cas de le dire. Hein. Jonas, Matthieu chapitre 12, verset 40. Vous imaginez un poisson qui avale un homme et l'homme qui ressort du poisson. Hein? Alain, écoutez, Jésus dit, en effet. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, d'un grand poisson, hein, c'est prophétique. Hein. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Donc, pour Jésus, voilà, Jonas, c'est vrai. Vous pouvez croire à l'histoire de Jonas. Jésus ne ment pas, mes amis. Donc, tout ce qu'il dit, on peut avoir confiance. Jésus, c'est la parole de Dieu incarné. Donc, si on revient à l'autre verset du départ, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Est utile, elle est utile. Toute l'écriture est utile. Même les généalogies que vous lisez en travers, comme moi, il faut l'avouer parfois. On a du mal, hein. Mais ouais, elles sont là, elles sont utiles. Hein. Les généalogies, c'était très utile pour les juifs, pour prouver leur filiation. C'est intéressant. Derrière les généalogies, si vous pouvez vous procurer un petit livre qui donne la signification des prénoms bibliques, faites-le, c'est très intéressant, tous les prénoms, parce que vous pouvez à ce moment lire les généalogies en regardant que signifient ces prénoms. Et c'est toujours très intéressant, parce que les prénoms bibliques, souvent, ils ont une signification, souvent en rapport avec Dieu, et Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est bon, c'est très édifiant aussi.
J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui s'est converti à cause de cela, parce qu'il disait, Un tel a vécu, il est mort. Tel a vécu, il est mort. Tel, il va mourir aussi. Non,
voilà. Ouais. Ouais, mais par exemple, voilà, hein, ces généalogies, successions de vie, de mort, ça peut interpeller. Donc, tout est utile, hein, tout est utile. Ça nous apprend, même les passages fastidieux, la patience et la fidélité. Et donc, utile pour quatre choses, on va relire ce texte de 2 Timothée 3,16. L'utilité de la Bible, hein, donc inspirée, mais utile. Utile pour quatre choses, regardez, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc, utile pour enseigner. Pourquoi ? Parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. Notre frère parlait tout à l'heure, on peut parler de plein de choses, mais nous sommes ignorants de ce qui est le plus important très souvent, la parole de Dieu, des vérités bibliques. On entendra la semaine prochaine le témoignage de notre frère Eddy, qui a été humilié à un moment donné, interpellé quand il était dans une église, et il s'est rendu compte que les enfants connaissaient beaucoup mieux la Bible que lui, n'est-ce pas ? Il y avait un quiz et les enfants, ils apprenaient la Bible, ils répondaient aux questions. Et il s'est dit, moi je connais rien. Hein. Et c'est là que, voilà, tu nous raconteras la suite, hein, qu'il a eu à cœur de lire la Bible, de l'étudier. Oui, la Bible, utile pour enseigner quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Ça, on ne la trouve pas dans le journal, hein, ou à la télé, vous la trouvez dans la Bible, l'enseignement, l'importance d'enseigner les enfants, c'est répété, enseigner les enfants très tôt. Utile aussi pour convaincre, on pourrait dire aussi pour réfuter. Pourquoi ? Bien parce que nous nous approchons de la Bible, des Écritures, avec nos idées, avec nos croyances, et là, on est souvent bien remis en question. Je pensais pas que ça c'était mauvais, hein. Ou je pensais pas que telle chose est annoncée par Dieu, tels événements, ou j'ignore ces faits historiques. Voilà, donc, obligé de nous convaincre, de nous corriger, c'est le travail du Saint-Esprit, hein, qui nous convainc de péché en particulier, qui nous montre vraiment nos erreurs, nos fautes. Et donc, une fois qu'on est convaincu, il peut nous corriger ou nous redresser. Le mot grec, dans le mot corriger, il y a ortho, comme orthopédie, orthophonie, donc on redresse le langage, voilà, par exemple. Et là, donc, il nous remet sur le droit chemin, la Bible, voilà, utile pour nous corriger si on veut bien se laisser convaincre, déjà. Et puis, utile pour instruire ou éduquer dans la justice. Le mot instruire est intéressant, c'est le mot grec paideia qui a donné pédagogie. Voilà. Instruire pour nous enseigner encore. Hein. On le chante d'ailleurs dans un cantique, le psaume 25, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, Seigneur, car tu es le Dieu de mon salut. » Donc voilà, on a besoin d'être corrigé, parfois d'être redressé, hein, et puis ensuite d'être enseigné, éduqué, instruit. Et vous savez, c'est bon de passer par cette expérience d'être corrigé par la Bible. Parce que ça nous rappelle notre nature pécheresse, notre fragilité et notre besoin vital de dépendre de Dieu et de sa parole. Ça nous encourage aussi à nous impliquer dans la vie chrétienne. Vous savez, quand on parle d'enseigner, instruire, corriger, ça évoque un travail d'application, hein, de précision. Ne bâclez pas la lecture de la Bible. Ce mois-ci, c'est le mois où on va parler de la doctrine de la Bible. Comment c'est important. Pour être un chrétien fort et solide, il faut connaître sa Bible, il faut la lire, la méditer. Regardez avec moi deux ou trois derniers versets. D'abord 1 Timothée 1,15. Qui nous dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve, entièrement digne d'être reçue », dit une autre version. « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Voilà, ça, c'est le but de toute la Bible, hein, de nous amener à reconnaître notre péché, notre besoin d'un sauveur. Nous avons tout ce qui est nécessaire et suffisant pour notre vie dans la Bible. Terminons avec Jean 20, versets 30 et 31, où Jean résume vraiment l'évangile, résume l'évangile. Hier, on avait vu avec René aussi son témoignage, ce résumé de l'évangile. Et Jean nous dit que Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Il n'y a même pas tout dans les évangiles, mais il y a l'essentiel, ce qui est nécessaire et suffisant. Mais ceux qui ont été décrits, ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez, c'est le but, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous n'avons donc pas tous les détails, mais nous avons ce qu'il faut pour croire que le Messie, que Jésus est le Messie et avoir la vie éternelle en lui. Voilà, ça c'est tout le but des Écritures et des Évangiles. Voilà, que Dieu nous fortifie dans la foi, nous encourage à savoir, voilà, nous avons dans la main la parole de Dieu, les paroles de Dieu, les Écritures, et nous pouvons avoir confiance dans ce livre, il est la vérité. Ta parole est la vérité, dit Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce livre précieux que nous avons en main. Seigneur, donne-nous de l'aimer, de le lire, de le savourer, de le déguster, de le méditer, Seigneur. Il y a tant de façons de tirer profit de ce livre. Que ce mois-ci marque un changement dans notre vie, que nous devenions des mordus de la Bible, Seigneur, assidus à la lire, que nous y trouvions du plaisir et que nos vies soient transformées. Te le prions par Jésus-Christ. Amen. Les annonces.